Alors bonsoir. Donc nous accueillons ce soir Lionel Ketstenbaum, qui est chercheur à l'INED et également chercheur associé à la Paris School of Economics, et qui inscrit ses recherches dans deux champs principaux que sont donc d'une part l'histoire économique et d'autre part la démographie historique, et qui aujourd'hui va nous présenter donc une conférence intitulée « Nord-Africain, Français musulman ou Algérien ?» Catégorisation et classification dans le recensement français de 1954. Donc c'est donc les résultats d'un travail en collaboration et qui interroge, si je ne me trompe pas, et qui interroge à partir du cas précis des Algériens dans le recensement donc de 1954, les entorses faites au droit par les autorités qui, en contexte colonial, ont introduit des distinctions entre nationaux résidant sur le territoire métropolitain, et des distinctions selon des déterminants qu'il s'agit d'élucider ici.
Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc, je remercie aussi Yann Soldozucher qui malheureusement n'a pas pu venir, mais qui m'a invité initialement à venir présenter. Donc, je suis très content de venir présenter ici ce travail qui est coécrit avec Angéline Escafré-Dublé, qui est maître de conférence à Lyon 2, et Patrick Simon, qui est chercheur à l'INED également. Et donc, ce que je vais présenter... c'est en partie, comme vous l'avez dit, un travail sur la classification et sur le recensement de 1954, et je vais présenter un projet un petit peu plus large avec, un contexte assez varié pour vous présenter la situation précise, historique, dans lequel a été faite cette classification. Et donc, au départ, c'est un article de recherche sur la catégorisation administrative des immigrés, et qui fait partie d'un projet un peu plus long, qui est une sorte d'histoire longue de l'intégration, ou en tout cas une histoire longue, disons, du regard porté sur les étrangers, sur les immigrés. Et pour cela, on s'est intéressé à différents aspects. Avant d'aller plus loin, il faut que je précise, c'est vraiment dans la période... qui précède et qui suit immédiatement la Seconde Guerre mondiale, et donc on s'intéresse plutôt sur la période 1945-1965. Et donc dans cette période, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est comment dans cette période se construit la catégorie d'immigrés, et comment les constructions qui sont faites, aussi bien par l'appareil administratif que par le monde scientifique, et d'autres l'ont montré pour d'autres domaines, comment les constructions qui sont faites dans cette période persistent longtemps, et y compris jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, on a travaillé sur deux éléments précis, un dans le milieu scientifique, en étudiant la genèse et l'origine de l'enquête Girard-Stotzel, donc d'une des premières enquêtes portant spécifiquement sur l'immigration en France, dont la genèse se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'enquête se déroule au tout début des années 1950, avec l'idée de mesurer l'intégration. Et le deuxième point que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'histoire des catégorisations, des classifications dans le recensement français, avec en particulier pour adresser la question plus large de comment est-ce qu'on produit des catégories administratives, la spécificité de ce que certains auteurs ont appelé le moment colonial, donc le moment où la France possédait des colonies à travers le monde. Et dans ce moment colonial, une spécificité qui concerne l'Algérie, qui était un territoire français, et une spécificité qui concerne les coloniaux présents en métropole. Donc là, aujourd'hui, je ne m'intéresse pas à l'empire colonial comme tel, mais je m'intéresse aux immigrés de cet empire colonial, c'est-à-dire aux Algériens qui sont présents sur le territoire en France métropolitaine. Donc là, un plan rapide de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour commencer, une simple description des tableaux du recensement et des classifications utilisées pour les immigrés dans les tableaux du recensement. Ensuite, je préciserai un peu le contexte politique et démographique de l'immédiat après la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, je parlerai, dans le contexte scientifique, des enquêtes français immigrés menées à l'INED dans l'immédiat après-guerre. Ensuite, sous trois modalités, je présenterai la catégorisation et classification des Algériens. Donc l'objectif de cette recherche, à nouveau, c'est vraiment de comprendre les processus de classification à l'œuvre de différents groupes et la façon dont ces processus évoluent au cours du temps et dont ils sont modifiés. Une typologie qui disons depuis, donc pour revenir un peu, donc le recensement commence au moment de la Révolution française et il a lieu assez régulièrement à partir du début du 19e siècle, tous les 5 ans. Et sur ce recensement, toutes les personnes normalement qui résident en France sont interrogées. Donc on parle de la France métropolitaine à nouveau. Toutes les personnes qui résident en France métropolitaine sont interrogées et certaines caractéristiques sont consignées. Et parmi ces caractéristiques, donc vous allez avoir l'âge, le sexe, le lieu de résidence, etc. Et parmi ces caractéristiques, la nationalité est un élément assez déterminant. Et à partir de 1851, cette nationalité est déclinée de façon claire en trois modalités qui sont étranger, français par acquisition et français de naissance. Donc il est distingué dans le recensement, les Français de naissance et les Français par acquisition. Et ces trois modalités permettent de classer l'ensemble des individus. C'est à ce moment qu'on se heurte, que l'administration doit faire face à la question coloniale. Puisque les résidents, donc les personnes venant des colonies, mais qui résident en France métropolitaine, donc tous les gens qui habitent dans les colonies sont français, donc ils ont la nationalité française. Mais ils n'ont pas la citoyenneté française, c'est-à-dire ils sont sujets français, c'est le terme, et donc ils n'ont pas les droits, par exemple, ils n'ont pas le droit de vote en France. Et donc c'est un point important, mais en termes de nationalité, ils ont la nationalité française. Et pourtant, juste en 1939, donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais donc en gros, juste en 1939, les ressortissants de l'Empire colonial français, donc c'est le terme qui est utilisé, donc ça c'est une page des documents officiels, des publications officielles qui présentent les résultats tirés du recensement, donc il est marqué que sont sujets français mais non citoyens, tous les indigènes des colonies, et ils sont classés, donc c'est la dernière colonne classement au recensement, ils sont classés comme étrangers. Donc dans ce triptyque étranger, français par acquisition, français de naissance, ces personnes sont français par nationalité, mais sont classées dans le recensement comme étrangers. Là où la situation devient compliquée, c'est à partir de 1946, avec la nouvelle constitution, le statut des coloniaux change. Donc on voit ici une distinction entre département, territoire d'outre-mer, et en dessous vous avez les territoires ou états associés, mais en tout cas dans les pays constituant la République française, qui est la première partie du grand A, vous avez les départements d'outre-mer, dont fait partie l'Algérie. L'Algérie, il y a une série de départements français, donc l'Algérie, d'un point de vue administratif et juridique, fait exactement partie de la France. Donc il y a trois départements algériens et les gens qui y habitent ont exactement le même statut qu'en France. Et à partir de 1946, les résidents en Algérie sont tous français et ils ont l'ensemble des droits, donc contrairement à ce qui était le cas précédemment. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour être précis. Donc, en Algérie, il y a trois groupes. Donc, il y a les Européens, dont font partie les colons français. Donc, eux sont français. Alors, je vais essayer de ne pas m'en mêler dans le vocabulaire, parce que c'est évidemment ce qui est un peu en jeu ici, et c'est assez important. Mais donc, les Européens ont la nationalité et la citoyenneté française. Les Juifs algériens, donc ensuite, il y a les indigènes, donc qui sont les non-européens qui résident en Algérie. Et ces indigènes appartiennent à deux groupes, qui sont les Juifs et les musulmans. Et les Juifs reçoivent la nationalité française à la fin du XIXe siècle, au moment du décret Trémieux. Donc les Juifs reçoivent la citoyenneté française. Donc les Juifs ont exactement la même situation que les Européens en Algérie. Ils ont la nationalité et la citoyenneté française. Les musulmans, eux, juste en 1946, je vais y revenir, les musulmans, eux, ont la nationalité française, mais n'ont pas la citoyenneté française. Ils sont en quelque sorte une citoyenneté de second ordre. Donc ils ont moins de droits. Donc cette situation change, je viens de le dire, en 1946, et elle change pour plusieurs raisons. Elle change pour des raisons qui tiennent au contexte politique. Il y a un changement profond dans le code de la nationalité, et il y a surtout, donc c'est une revendication de longue date, il y a une unification des droits entre les indigènes musulmans algériens et les Européens qui vivent en Algérie. Ça avait déjà été une proposition après la Première Guerre mondiale, la participation des recrues musulmanes algériennes à la guerre avait motivé une première demande de droits. Et il y a un projet en 1937 porté par Blum et Violette, des députés, pour octroyer la citoyenneté française aux musulmans indigènes d'Algérie. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ce projet est rejeté. Alors évidemment, tous ces projets qui ont lieu se heurtent à l'opposition des colons, c'est-à-dire des Européens qui vivent en Algérie. Et le projet est rejeté à cause de l'opposition des députés français d'Algérie. Donc ce qui se passe en 1946, c'est que la citoyenneté française est donnée à l'ensemble des Algériens. Donc c'était déjà le cas pour tout le monde, sauf les musulmans d'Algérie. Et ils reçoivent la citoyenneté française en 1946. Ils reçoivent une citoyenneté, je vais y revenir, qui reste quand même un peu de second ordre, puisqu'en Algérie, il y a... et donc ils reçoivent le droit de vote, mais ils n'hésitent pas de représentants à l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée nationale qui est à Paris, mais ils élisent un corps de représentants à part qui s'appelle le deuxième collège. C'est-à-dire qu'ils ont un droit de vote particulier pour un collège à part, et donc évidemment c'est une façon de restreindre et de limiter leurs droits. Là où ça va devenir compliqué et intéressant, c'est qu'un effet retard de ça, c'est que cette distinction, il y a une distinction qui est maintenue en Algérie, dans la colonie. Cette distinction n'existe pas en métropole. Donc un Algérien qui vient habiter à Paris n'est pas distingué juridiquement et en droit d'un Français. Donc un musulman algérien est... Pardon, j'essaye d'employer les termes corrects, mais je vais y revenir un peu sur les mots employés. Parce que, donc ils sont français, ils ont la nationalité, et s'il vient résider à Paris, il vote pour le député de son arrondissement, c'est parisien. Donc s'il habitait à Poitiers en 1947, un musulman... je vais revenir un peu en arrière. Donc un indigène musulman d'Algérie qui réside à Alger ne vote pas pour un député qui est à l'Assemblée nationale à Paris, il vote pour un député du deuxième collège qui se trouve à Alger. Par contre, s'il habite à Poitiers, par exemple, à la même période, il va voter pour les députés de Poitiers qui va à l'Assemblée nationale à Paris. Et donc, ce qui se passe, donc ça, c'est en quelque sorte un changement en droit. Donc, il y a un changement dans le cadre juridique de l'immigration. Et il y a une conséquence, en quelque sorte, non totalement anticipée de ce changement, c'est que il y a une suppression, c'est pas tout à fait pour la première fois, mais en tout cas pour la première fois depuis les années 20, il y a une suppression de tout contrôle à la migration. Donc il y a libre circulation totale. Donc de la même façon qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'autorisation pour aller de Rennes à Paris, il n'y a plus besoin d'autorisation pour aller d'Alger à Paris. Avant 1946, il y en avait seulement pour les donc à nouveau, l'Algérie faisait partie du territoire français, donc c'était exactement comme la Bretagne. Simplement, sur le territoire, donc sur la colonie algérienne, on distinguait spécifiquement les indigènes musulmans d'Algérie. Et ces indigènes musulmans d'Algérie devaient avoir une autorisation pour venir en métropole. À partir de 1947, il y a libre circulation. Et donc, aucune entrave légale possible à la migration. Et un des résultats de cet état de fait, c'est que il va y avoir un développement de la migration algérienne. Donc là, c'est simplement des données de cadrage qui donnent en pourcentage de la population française les étrangers et les coloniaux qui résident en métropole à chaque recensement. Alors c'est un peu trompeur, parce que comme c'est un recensement, c'est le stock de population qui habite à un moment donné, donc il y a un effet d'inertie, c'est des gens qui peuvent être arrivés 30 ans auparavant et qui sont toujours là, et à l'inverse, il y a un effet de disparition, puisqu'il y a des gens qui sont naturalisés, et donc ça ne veut pas dire qu'ils partent. Mais ça donne une idée, et la partie qui est importante, c'est qu'à partir de 1946, il y a une augmentation des migrants des colonies, et qui sont en très grande majorité des migrants d'Algérie. Et une caractéristique importante de ces migrants d'Algérie, c'est qu'ils constituent une population sélectionnée de façon très particulière. Donc ici, on voit quelques éléments... quelques caractéristiques sur les différents groupes d'immigrés. Donc on voit que les Nord-Africains sont à 95% des hommes, qui sont beaucoup plus... c'est une immigration très clairement de travail. Donc il y a peu de femmes et peu d'enfants. Et ils sont surtout très concentrés géographiquement. Donc on voit qu'un tiers d'entre eux habitent dans la Seine. Et donc tout ça donne une visibilité qui va, et c'est assez important, donc ici c'est simplement la concentration géographique, donc tous ces éléments donnent une visibilité qui va renforcer en quelque sorte des inquiétudes liées à l'arrivée de ces populations, inquiétudes qui viennent au départ de l'invisibilité de ces populations. C'est-à-dire juste en 1946, il y a un contrôle à l'immigration, et tant qu'ils sont sur le territoire, normalement, ils doivent déclarer. Donc normalement, ils devaient déclarer tout changement de département, y compris d'ailleurs en Algérie. Donc les migrations entre les trois départements algériens devaient être déclarées. C'est-à-dire de 46, ces contraintes sont levées, et on voit dans l'administration française une montée des inquiétudes sur cette situation, qui est à la fois une invisibilité statistique et une augmentation forte de la migration. Donc là, simplement pour illustrer la question de la concentration des populations étrangères, donc on voit en bleu dans chaque département, ça donne la proportion de populations étrangères. Donc c'est les départements les plus industrialisés et ceux qui sont à la frontière espagnole et italienne. Et ensuite, les cercles donc, en vert donnent le nombre de Nord-Africains et en rouge ceux d'Italiens, qui est l'autre... grand pays d'origine de l'immigration à cette époque. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu déjà. Donc le cadre juridique de l'immigration change. Il y a un assouplissement assez net de l'acquisition de la nationalité française après 1945. Et en même temps, il y a une volonté d'encadrement et de sélection de la migration. Donc une volonté de privilégier une certaine migration de travail et une volonté que l'État doit encadrer et sélectionner les migrants. Par exemple, donc, il y a des accords entre la France et l'Italie. qui donne un nombre de migrants qui seraient organisés, de migrants italiens qui doivent venir en France. Je l'ai dit tout à l'heure, donc la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie donne la nationalité et la citoyenneté française aux indigènes musulmans et leur donne met en place la libre circulation entre l'Algérie et la métropole. Donc, c'est le centre de ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Il y a une sorte de tension entre l'idée que, après le 20 septembre 1947, tous les habitants de l'Algérie, quel que soit leur statut, sont tous identiques juridiquement et donc sont tous français et en jouissent des mêmes droits, et le fait qu'en réalité, les indigènes musulmans vont être distingués. Et en particulier, dans cette loi, il y a une appellation officielle qui est français musulman d'Algérie. C'est l'appellation qu'on va voir apparaître un peu dans les textes et que je vais essayer d'utiliser dorénavant pour être cohérent avec moi-même. Et donc, un point important et qu'il faut garder à l'esprit, bon, ça, c'est pas des statistiques extraordinairement précises, mais disons, ça donne une tendance, et une tendance importante, et qui renforce ce que j'avais dit, cette perception du problème des migrations, c'est qu'en gros, vu de l'appareil administratif et des autorités politiques françaises, on veut des migrants italiens, donc on signe des accords avec les migrants italiens qui prévoient, par exemple, 200 000 migrants en 3 ans, juste en 1950. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les migrants italiens ne viennent pas pour différentes raisons. Ceux qui viennent, par contre, c'est les migrants algériens. Donc il y a libre circulation et on voit un développement très important de la migration algérienne jusqu'au moment de la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance, pour différentes raisons, va ralentir beaucoup l'immigration, et en particulier parce que l'administration française va réussir à souhaiter et remettre en place des contrôles de migrants. Donc évidemment, la guerre va changer la donne, mais pour l'instant, je me situe vraiment dans la période antérieure, et je vais rester en très grande partie dans cette période antérieure au déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne. Donc ici, pour vous donner un autre ordre d'idée, donc là, c'est les migrants qui arrivent d'Algérie en métropole. Et donc, on voit qu'il y a un mouvement très important dans les deux sens. C'est-à-dire le fait qu'il y ait libre circulation, en fait, fait qu'il y a plus de migrants qui arrivent, mais en fait, ça augmente la circulation générale. Il y a aussi plus de migrants qui partent, comme ils n'ont plus le problème, donc ils peuvent aller et venir dans les deux sens, ils ne se posent plus le problème de devoir venir une fois et de rester sur place parce qu'on veut pouvoir revenir. Donc le travail que je présente là s'inscrit dans une série de travaux qui étudie cette situation entre 1947 et 1962 et avec la partie de la guerre civile qui est un peu différente, mais en tout cas, dans cette situation entre 1947 et 1962, il y a, comme je l'ai dit, une égalité complète, au moins en théorie, entre Français et Algériens, ou entre Français et Français musulmans d'Algérie, qui est l'appellation officielle. Et ce qu'on voit, c'est qu'en pratique, en réalité, il y a un système à double vitesse. C'est-à-dire que les Français musulmans d'Algériens sont discriminés et les différentes administrations mettent en place des systèmes pour les traiter différemment, à la fois au mépris de la loi et du droit et à la fois au mépris même du fonctionnement de l'État, puisque pour pouvoir les distinguer, il faut les identifier, et en théorie, il n'y a rien qui les distingue. Donc là, j'ai cité quelques exemples de travaux que vous connaissez peut-être. Donc un exemple, par exemple, c'est les allocations familiales, où ils ont une caisse familiale à part, et où les allocations familiales sont trois fois inférieures. Et ça, c'est le cas en Algérie, et c'est relancer la métropole. À nouveau, tous ces travaux, c'est sur la situation des immigrés qui se trouvent en métropole, où rien ne peut les distinguer. Un autre exemple, par exemple, c'est les services de police. Donc, il y a eu un travail important d'Emmanuel Blanchard sur ça. Et donc, les services de police, il y avait une brigade spécifique destinée aux migrants algériens. Elle est dissoute en 1945. Et le préfet de police de Paris essaye de la remettre en place. Il se heurte à l'opposition des autorités politiques qui l'empêche de le faire. Et finalement, en 1953, sous couvert de répression contre certains types d'agressions, réapparaît une brigade spéciale à la préfecture de police de Paris, qui s'appelle une brigade des agressions et violences, et qui en fait est un service spécifique destiné aux Algériens de façon déguisée. Donc ça, ces différents travaux montrent le système à double vitesse, et je vais essayer de mettre en évidence dans deux contextes, dans le contexte scientifique assez rapidement et dans le recensement français. Et le contexte scientifique me semble important parce qu'il met en avant la façon dont se construit cette différenciation, dont se construit cette distinction et dont on pense cette population comme différente. Pardon. Donc l'INED, en deux mots, Institut National d'Études Démographiques, est créé en 1945 pour se consacrer aux problèmes de population. Et il est créé et motivé, il est créé sous l'impulsion d'Alfred Sauvy, qui en prend la direction et qui a une volonté très marquée d'influencer les politiques publiques. Et il y a un problème qui préoccupe beaucoup Sauvy, c'est la faible fécondité française. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais donc il y a une préoccupation nataliste importante. Et de cette préoccupation nataliste découle un intérêt pour la question migratoire. Et donc parmi les premières publications de l'INED, il y a une série de livres, notamment qui s'intitule « Une possibilité d'immigration italienne en France ». Et donc, comme le titre l'indique, c'est pour favoriser l'immigration italienne. Un autre aspect, donc dans le premier numéro de la revue Population, qui est la revue scientifique de l'INED, il y a un article signé par Alfred Sauvy lui-même qui s'appelle « Évaluation des besoins de l'immigration française », et donc qui estime à 5 millions les besoins de la France pour la reconstruction et pour le repeuplement. C'est le grand cheval de bataille de Sauvy. Et il contient également, donc c'est ce premier numéro de la revue, le numéro initial de la revue Population, il contient un long développement qui s'intitule « Législation ». Et donc là, il y a des extraits projetés et qui résument un peu la doctrine de l'époque sur l'immigration, vue par Sauvy, mais qui est partagée par un certain nombre de fonctionnaires de l'administration. Donc on voit qu'il faut lutter contre l'entrée irrégulière d'un trop grand nombre d'étrangers, parfois indésirables. Donc il ne dit pas, mais on voit qui c'est. L'immigrant était trop souvent considéré du seul point de vue du travail qu'il pouvait fournir a fait l'objet d'une sélection insuffisante, donc il faut sélectionner. Et dans la fin, c'est tout à fait ouvertement dit, il faut maintenant choisir de préférence des étrangers les plus facilement assimilables, interdire l'accès du territoire aux individus déficients physiquement ou mentalement, qui deviennent rapidement une charge supplémentaire, encourager la venue d'éléments jeunes et sains, susceptibles d'accéder rapidement au statut de résident privilégié, etc. Donc ça annonce la couleur et en quelque sorte les tenants dont il y a un certain nombre de chercheurs à l'INED dont Sauvy le directeur lui-même, donc les tenants de cet angle de sélection se trouvent projetés comme le reste de l'administration française, j'ai cité les travaux, avec cette situation qui est que en fait, le groupe de migrants qui est le plus nombreux, c'est les Français musulmans d'Afrique du Nord. Et donc là, Sauvy, dans un document interne à l'INED, dit très clairement, bon, je vais le lire rapidement, « Il faut souligner les dangers d'une migration continue de Nord-Africains qui risque de se produire en raison de l'octroi de la citoyenneté française aux indigènes d'Afrique du Nord. » Donc Sauvy était contre et voulait, ce risque aurait pu être évité s'il avait été créé un titre de citoyen d'empire, donc il voulait une autre citoyenneté de second ordre. Il convient que l'INED prenne position, etc., et les éclairer sur le problème de l'assimilation des Nord-Africains, qui doit être vu sous le double aspect de l'hérédité et du milieu. Et donc c'est dans ce cadre que l'INED va mettre en place donc, ce qui au départ était des enquêtes sur la situation des immigrés présents en France, centrées sur les Italiens et les Polonais, qui sont les deux groupes nationaux les plus importants. Elle va mettre en place une série d'enquêtes avec un rajout sur les Nord-Africains. Donc là, j'ai mis simplement en résumé. Donc les enquêtes seront effectuées en 1950-51 et donneront lieu à deux ouvrages publiés en 1952 et 1953 qui s'appellent Français et étrangers. Et ces deux ouvrages mettent en rapport... Donc, malheureusement, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais ils mettent en relation, disons, ils hiérarchisent très fortement les différents groupes, donc les Français et les étrangers. Et ensuite, parmi les étrangers, les Italiens et les Polonais d'un côté et les Algériens de l'autre. D'ailleurs, les Algériens ne sont pas des étrangers, mais sont traités comme tels et même pire que ça, de cette façon. Et donc la conclusion, alors c'est vraiment un morceau d'anthologie parce que ça dit les choses sans les dire, il y a toutes sortes de comparaisons, mais au final, ce qui est impressionnant, c'est que pour les Italiens ou les Polonais, on ne se pose pas la question, donc à l'époque ils parlent d'intégration, ils parlent aussi d'assimilation, mais on ne se pose pas la question de savoir s'il y a des problèmes ou des difficultés, on ne se pose pas la question de savoir si c'est possible. Et sur les Algériens, par contre, c'est catégorisé, donc il y en a 140 qui sont enquêtés, et sur les 140, 51 sont considérés comme assimilables, et les autres sont classés dans une catégorie qui s'appelle inadaptable, donc qui dit tout ce qu'on veut faire. Et ce qui est important, donc là, dans un article, on développe un peu ça. Ce qui est important, c'est que il n'y a pas de préjugés, en tout cas, c'est pas exprimé comme tel, de préjugés racial ou racialisant, ce qui était plutôt le cas dans l'entre-deux-guerres. Et ce qui remplace ça, c'est la différence culturelle. Donc c'est le rapport à la modernité, le déracinement, la famille, l'hygiène, l'alimentation. Et là, par exemple, j'ai pris deux citations. On voit que la religion, du côté des musulmans, elle est mise comme quelque chose de négatif, parce que quitter sa société indigène, traditionnelle, patriarcale, etc. Et l'italien, c'est une race aux fortes traditions. Donc on voit, c'est exactement la même chose. La vie familiale, il se maintient des usages religieux emportés d'Italie, dévotion. Et ces traditions favorisent une vie morale qui semble en général saine et régulière. Donc le même facteur d'un côté et de l'autre est perçu exactement de l'autre côté. Et ce qui est intéressant, et je vais en finir là avec les enquêtes, c'est que donc, dans ces enquêtes, ils ont mené une grande série d'entretiens avec un certain nombre d'immigrés français musulmans d'Algérie. Et ils dépouillent, donc ils font une lecture qui est quand même très partiel même de ces questionnaires, mais pourtant dans les questionnaires on voit beaucoup, donc on pourrait réanalyser, donc il y a beaucoup de témoignages et on voit une conscience très forte par les immigrés eux-mêmes de leur situation et notamment donc on est vraiment dans l'immédiat après-guerre et une des choses qui ressort très souvent c'est cette rancœur de d'être maltraité alors qu'ils se sont battus pour la France et donc là donc il y a une conscience de la discrimination. Et il y a une conscience des inégalités, donc il y a une citation que j'aime bien, on dit, oui, souvent on dit que nous aimons pas la France, c'est faux, c'est la dernière tout en bas, nous maudrions contre la France comme tout bon Français qui se croit lésé dans ses droits. Nous, chez nous, nous sommes lésés ouvertement, que cet état de choses cesse et qu'on nous donne nos droits acquis par l'impôt du sang. Et dans les, on voit beaucoup dans les questionnaires, par exemple, cette conscience des inégalités dans la colonie, parce que une fois arrivé en métropole, la situation est très différente. Et donc, il y a une prise de conscience extrêmement forte qu'ils sont pas des Français comme les autres. Et donc c'est ma transition un peu douteuse vers le cœur du sujet, qui est la façon dont ils sont traités dans les recensements. Donc encore une fois, c'est dans cette période d'égalité des droits, c'est les immigrés français musulmans d'Algérie qui se trouvent en métropole. Et je vais m'intéresser, donc il y a un recensement en 1940, 46, donc qui est fait avant l'ordonnance sur l'Algérie. Il y a un recensement en 1954, donc qui est celui auquel je vais m'intéresser le plus précisément. Et ensuite, il y aura un recensement en 1962, dont je vais parler un petit peu. Il y en a un autre en 1968. Et donc, il y a deux choses qui ressortent clairement. La première, c'est que on va recenser, l'administration française recense différemment les Français musulmans d'Algérie. Et donc là, je vais essayer de répondre à deux questions. Pourquoi et comment? Donc, ils les recensent différemment et en même temps, ils gardent ils essayent de maintenir cette fiction de la nationalité française, donc de leur non-différence. Alors, il y a deux questions. Pourquoi les recenser spécifiquement et comment faire, puisque en théorie, il ne devrait pas l'être. Alors, pourquoi il y a à la fois une question sociale et une question coloniale. Une des motivations, donc on est dans une situation de reconstruction moins de 10 ans après la fin de la guerre. Et donc, une des préoccupations centrales du recensement à ce moment-là, en 1954, c'est la mesure de l'activité économique et l'étude des actifs. Et donc, une des justifications qui est beaucoup utilisée dans les documents internes de l'INSEE pour distinguer les Français musulmans d'Algérie, c'est des demandes explicites du ministère du Travail sur ces personnes. Et donc ces demandes explicites, ça a deux conséquences, un soin particulier mis à les atteindre et une volonté de les distinguer. Et donc cette attention qui est portée aux Nord-Africains sans emploi va en fait contribuer à importer des colonies, à la fois des catégories préfabriquées et les préjugés sur cette population qui ont lieu. Donc une première chose qui est intéressante, c'est que donc, normalement, ils sont français. Il y a quand même une catégorie officielle qui existe pour les distinguer, qui est français musulman d'Algérie, de la même façon qu'on pourrait dire breton. Mais il faut bien comprendre que français musulman d'Algérie, ça permet de les distinguer des autres français qui viennent d'Algérie, c'est-à-dire les Européens principalement, donc les colons français qui eux aussi peuvent se trouver en métropole. Et donc cette appellation officielle, ce qu'on voit dans les textes, c'est qu'elle n'est elle est pas forcément répétée, elle n'est pas forcément utilisée, et il y a une grande diversité des termes employés par l'administration, aussi bien dans les échanges internes, où on voit par exemple le terme d'Algérien ou d'Algérien musulman, qui est un terme que l'administration va peu à peu supprimer, en particulier parce que c'est une revendication nationaliste. C'est-à-dire les mouvements indépendantistes algériens utilisent, eux, le mot « algérien » et se disent « algériens ». Ils ne se disent pas « français » à aucun moment. Et donc le paradoxe, c'est que l'administration française, pour faire face à ces revendications, est obligée justement supprimer les références au terme d'Algérien. Et donc un terme qui est souvent utilisé, c'est aussi nord-africain. Donc nord-africain, qui devrait désigner Marocain, Tunisien et Algérien, et qui est désigné effectivement dans les publications officielles dans l'entre-deux-guerres, mais qui, à partir de 1945, se met à désigner les seuls Algériens. On voit ici, par exemple, illustré dans les différents tableaux, donc ça c'est les publications officielles du recensement, on voit l'évolution des catégories, donc c'est les recensements qui a lieu tout, donc à partir donc juste en 1936, le recensement a lieu tous les 5 ans, c'est une régularité. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu plus irrégulier, jusqu'à aujourd'hui, cette irrégularité a continué. Mais donc on voit dans les différentes publications les changements de catégories, avec des catégories plus ou moins imprécises, On distingue parfois l'Afrique du Nord des autres possessions, comme en 1931. Sachant que les nombres là, une grande majorité vont être évidemment des Français musulmans d'Algérie. Donc une grande majorité des coloniaux présents en métropole sont des Algériens. Et on voit qu'à partir de 1946, les termes changent, mais à aucun moment l'appellation officielle n'est utilisée. Et on voit surtout qu'ils sont distingués dans le recensement. Donc en 1946, c'est originaire de l'Union française, c'est une catégorie un peu fourre-tout. En 1954, il y a des tableaux très détaillés sur les musulmans originaires d'Algérie, qui est une variation sur l'appellation officielle. Et en 1962, j'y reviendrai, on trouve musulmans algériens. L'importation des catégories, c'est une chose, mais évidemment, dans la fabrication du recensement, il y a aussi l'importation de préjugés coloniaux qui revêt une double dimension, qui est à la fois une motivation et une justification pour l'attention particulière qui est portée à cette population. On le voit là, c'est une population qui est supposée insaisissable. Donc ça, c'est des compte rendu d'archives, d'échanges entre à l'intérieur de l'INSEE. Donc DR, c'est les directions régionales de l'INSEE qui mettent en œuvre le recensement, et c'est des échanges avec la direction générale de Paris. Donc on voit que la DR de Marseille dit une catégorie de recensables qui n'a déjà que trop tendance à se dérober. Donc on suppose qu'ils tentent d'échapper au recensement. L'agent recenseur s'est présenté plusieurs jours de suite à des heures différentes, parce qu'on veut les surprendre, on pense qu'il y a plus de gens qui sont dans le logement que ce qu'il déclare, des choses comme ça. Et on voit importer, ça c'est pas spécifique au recensement, c'est une chose qu'on retrouve dans d'autres domaines et qui se prolonge bien après l'indépendance de l'Algérie, mais on voit importer les catégories de pensée coloniale et les préjugés sur ces populations. Donc une population qui est excessivement mobile, et donc ça c'est des choses qu'on voit aussi dans les rapports de police, c'est l'assimilation avec les nomades, donc c'est toujours des populations qui inquiètent. Et le dernier point, donc on a vu qu'en 1946 c'était beaucoup d'hommes seuls, en 1954 ça a un peu changé, il y a sans doute pas mal de familles, mais cette idée de famille est plutôt niée, et on a quand même l'image, y compris dans l'administration française, de l'homme seul venu travailler et donc criminel en puissance. Et on voit dans la citation, ils disent il arrive fréquemment que les Nord-Africains vivent assez nombreux, etc. Dans ce cas, on considéra systématiquement, même si l'un des Nord-Africains s'était déclaré chef d'un ménage ordinaire, qu'il forme un ménage collectif. Donc ce qui est intéressant là, c'est que, et ils font ça uniquement pour les musulmans nord-africains, ils recodent les déclarations. C'est-à-dire ils ne croient pas à la déclaration, donc il y en a un qui se dit « je suis chef de ménage et je loge ces gens-là ». On dit bah, « s'ils sont trop nombreux, on met que c'est un ménage collectif ». Donc en quelque sorte, on fabrique l'idée qu'on en a initialement. Donc ça renforce les stéréotypes, mais ce qui est à la fois problématique pour moi et intéressant, c'est que nulle part dans les archives du recensement, dans ce qui subsiste, on a marqué ouvertement pourquoi il faut recenser à part, donc il faut distinguer les Français musulmans d'Algérie. Et alors on peut penser que c'est peut-être par manque d'archives que ce qui subsiste a été détruit, ou parce que c'est vrai qu'il y a un grand nombre d'archives qui manquent. Mais ce qui apparaît à la lecture des rapports, c'est plutôt que ça va de soi. Donc c'est une espèce, la question ne se pose pas. Donc l'évidence de la distinction, à nouveau, ces gens sont français, et il n'y a aucune raison de les coder spécifiquement et de faire des tableaux d'analyse sur eux. Il n'y en a pas sur les Bretons, tout ça. Mais cette évidence de la distinction apparaît, c'est naturel. Et donc sur la façon dont elle va être faite, on le voit assez clairement dans les rapports et dans les éléments préparatoires au recensement. Et il y a deux éléments qui me semblent essentiels. Le premier, c'est de maintenir une façade de normalité, donc les apparences d'une indistinction. Et en même temps, il faut une collecte qui leur est chargée spécifiquement. Et donc on voit ça... Donc, il y a une série de documents, donc il y a des instructions au maire qui sont des documents préparatoires à la réalisation du recensement de la population en 1954. Et donc là, j'en ai mis un dont je vais lire des extraits parce que c'est quand même le plus frappant et le plus clair sur cet entre-deux. Donc c'est instructions relatives au recensement des Nord-Africains. Et on voit sur la première page plusieurs organismes ayant demandé que les Algériens musulmans fassent l'objet de tableaux particuliers. Donc à nouveau la justification que par exemple le ministère du Travail voulait des tableaux particuliers. La direction générale envisage la création d'une cartothèque spéciale centralisée, après, etc. Le code des nationalités comportera un numéro particulier pour les Algériens musulmans, donc ils vont être codés à part afin de pouvoir produire des tableaux et les identifier, mais le tri de leur bulletin se fera au moment du chiffrement en utilisant le nom et le lieu de naissance. En aucun cas, les bulletins ne devront recevoir de mention spéciale au moment des opérations de recensement sur le terrain. Donc c'est cette dernière phrase qui dit « En aucun cas, les bulletins ne doivent recevoir de mention spéciale ». Donc, en aucun cas, au moment où l'agent recenseur va chez les personnes, il doit noter ces gens différemment de français. Et c'est clairement précisé dans les instructions. Bon, là, on voit pas très bien ce que j'ai eu. Donc, c'est clairement reprécisé dans les instructions. Et un point important, donc, c'est cette tension... entre la volonté de ne pas les distinguer, donc de les recenser comme tout français, si j'ose dire, et en même temps de pouvoir les compter à part et les distinguer. Et cette tension s'exprime aussi au moment du choix des agents recenseurs, avec l'idée qu'il faut des agents recenseurs particuliers, qui doivent être parmi les meilleurs, sous-entendu. Et donc la question se pose, là c'est tout en bas, faut-il rechercher de préférence des agents recenseurs nés en Afrique du Nord ? Et il y a marqué en principe non, et c'est souligné, sauf des cas plutôt rares, il y a peu de Nord-Africains qui soient techniquement aptes à remplir ces fonctions. Donc on voit déjà un premier préjugé, c'est qu'on ne veut pas d'agents recenseurs Nord-Africains parce qu'ils n'en sont pas capables. Et ensuite, le paragraphe suivant, alors qu'il lui est déjà trop souvent difficile de se défaire de son complexe nord-africain, choisir un nord-africain pour recenser des nord-africains ne ferait qu'accentuer sa tendance à réagir comme tel. Le résultat sera en général médiocre. Donc on voit tous les préjugés qu'on peut imaginer sur cette population, préjugés qui viennent à la fois du monde colonial et de crainte de la situation en métropole. Par contre, ce qui est spécifié, c'est que l'argent pour recenseur pourrait être accompagné d'une personne appartenant à un centre d'action sociale en faveur des Nord-Africains, donc des gens qui participent à l'encadrement social des Nord-Africains. Et ensuite, il est précisé, les directions régionales, donc pour trouver des agents recenseurs connaissant bien les Nord-Africains ou des personnes capables de les assister dans leur tournée, les directions régionales et les mairies pourront demander le concours des organisations d'action sociale en faveur des Nord-Africains. Donc on va faire appel à des associations d'action sociale et à des agents d'encadrement, y compris, on le voit dans certaines citations, le recours à un personnel spécialisé de militaires, d'anciens militaires. Et c'est important, c'est une chose qu'on retrouve dans d'autres études qui ont été faites, par exemple, sur la Sona Koutral, donc sur les foyers spécialisés dans le logement des Algériens. La population souvent recensée sont des personnels, des anciens, pardon, des militaires venus des colonies, des militaires ou des administratifs venus des colonies, avec l'idée qu'ils connaissent mieux ces personnes. Mais une conséquence, évidemment, de ça, c'est que ça importe directement le fonctionnement colonial en métropole. C'est-à-dire qu'on va traiter ces gens de la même façon qu'ils sont traités en colonie. Donc ça transpose en métropole les préjugés, les discriminations et la situation inégalitaire qui prévaut dans les colonies. Une troisième chose, donc comment il faut faire. Alors je l'ai cité à un moment rapidement, mais la partie la la plus étonnante, c'est que, dont il est dit, le code des nationalités comportera un numéro particulier pour les Algériens musulmans, mais le tri de leur bulletin se fera au moment du chiffrement en utilisant le nom et le lieu de naissance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il faut rentrer un petit peu dans les détails de la façon dont il fait le recensement, mais le recensement de 1954 diverge par rapport au recensement précédent. C'est le premier qui est mécanisé, ou en partie mécanisé, en tout cas. Donc il y a un chiffrement, c'est-à-dire que le... Alors, je vais passer directement au... Donc voilà, vous avez le bulletin de recensement. Donc vous avez donc ça c'est le bulletin tel qu'il est rempli par l'agent recenseur. Et ensuite sur la partie c'est à la droite. Donc sur la partie droite de ce bulletin, vous avez des codes qui sont chiffrés. Ensuite ces codes il y a des grandes cartes qui sont perforées. On les met dans une machine et la machine sort des tableaux fabriqués. Donc c'est l'ancêtre de l'informatisation. C'est des choses qui avaient déjà été utilisées pour les recensements américains dans l'entre-deux-guerres. Et en France, c'est la première fois que c'est mécanisé à ce point-là. Et donc, ce qui est important, c'est que c'est à ce moment-là que survient le codage spécifique aux Algériens. Donc, c'est précisé directement dans les publications du recensement. Donc, quoi que les musulmans originaires d'Algérie, là, on voit que c'est encore une autre appellation. C'est pas... Soit citoyens français, ils ont reçu un numéro de code particulier parce qu'ils constituent une collectivité, etc., surtout en ce qui concerne l'activité professionnelle. Alors, comment est-ce qu'ils font ça? Donc, au moment où l'agent recenseur passe devant la personne, il va noter français de naissance, donc, comme il doit le faire, donc il barre les autres. Et c'est là la spécificité de ce recensement, c'est qu'ensuite, ils vont utiliser le lieu de naissance pour recoder le fait d'être algérien. Mais le problème de ça, c'est qu'évidemment, une partie importante des gens qui sont nés en Algérie, présents en métropole, peuvent être européens. Et donc pour ça, ils utilisent le lieu de naissance en combinaison avec le nom et le prénom. Et donc c'est les personnes qui sont nées en Algérie et qui ont nom et prénom à consonance. J'essaye de retrouver la phrase exacte. Qui ont un nom et prénom à consonance. Donc les personnes nées en Algérie qui ont à la fois un nom et un prénom à consonance arabe ou berbère. Et donc pour faire ça, ils utilisent des listes. Donc je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. Donc ils utilisent des listes dont vous avez là un exemple. On n'en a pas retrouvé beaucoup dans les archives, mais dont ils utilisent des listes qui leur sont fournies par l'état civil algérien. C'est-à-dire que en Algérie, à partir de la fin du 19e, il y a un état civil en Algérie, donc qui recense les naissances, mariages et décès comme l'état civil en métropole. Et donc l'état civil algérien compile une liste des noms et des prénoms arabes et berbères et envoie ces listes. Donc vous voyez ici, liste des prénoms musulmans les plus usuels relevés sur les registres d'état civil en Algérie. Donc là, c'est la première page et vous en avez une dizaine comme ça qui sont utilisés pour recoder. Donc il faut imaginer quand même qu'il y a alors ils font ça que pour un sous-échantillon, mais ça correspond quand même à plusieurs milliers de questionnaires à revoir le nom, le prénom pour ceux qui sont nés en Algérie. Et il y a une seconde liste qui donne les noms à consonance arabe mais d'origine juive pour ne pas mélanger pour ne pas coder en français musulman d'Algérie les juifs d'Algérie. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment dans le recensement, ils ne se posent la question de la marge d'erreur qu'ils ont. Parce qu'on peut imaginer toutes sortes d'erreurs dans les deux sens. C'est-à-dire, on peut imaginer des gens qui sont européens et qui vont être codés comme français musulmans d'Algérie et vice-versa. Et donc, bon, je n'ai pas le temps de re-rentrer dans les détails, mais en tout cas, donc on voit qu'il y a un code à deux chiffres. Donc le premier chiffre permet de distinguer les Français, les étrangers et les Français par naturalisation. Et le deuxième chiffre, normalement, devrait être 0,0 comme pour les Français. Et ils ajoutent un 1 qui distingue spécifiquement, donc c'est marqué. Le deuxième code permet de distinguer les Français musulmans d'Afrique du Nord, encore une autre appellation, l'ancienne nationalité, donc là il n'y a plus Algérie, c'est Français musulmans d'Afrique du Nord, l'ancienne nationalité des naturalisés et la nationalité des étrangers. Donc normalement, le deuxième devrait s'inverser. Donc, ce qui est ce qui est singulier par ça, c'est que c'est pas une distinction raciale. Dans le recensement américain, par exemple, il code les races, et tout au long du 19e, c'est l'agent recenseur qui note si la personne est blanc ou noir. À partir de je sais plus quelle année, à partir du milieu du 20e siècle, c'est autodéclaratif. Donc, c'est la personne qui se dit si elle est blanc ou noir. Là, c'est pas l'agent recenseur qui choisit si la personne en face de lui est français musulman ou pas. L'agent recenseur, il met français et il veut pas le savoir. C'est après, ex post, donc c'est sur la fiche indépendamment de la personne. Donc c'est à partir de la consonance du nom. Et contrairement à ce que laisse supposer l'appellation officielle qui est français musulman d'Algérie, c'est pas un rapport avec la religion. En particulier, il n'y a pas d'interrogation sur le fait qu'il soit musulman. Et ce qui est intéressant, c'est que en Alsace-Lorraine, il y a eu une question supplémentaire facultative pour avoir la religion. Et elle a été chiffrée, y compris, donc il y a protestants, catholiques, juifs et musulmans qui est codé. Et cette variable-là n'est pas utilisée pour coder les Français musulmans d'Algérie. Donc c'est vraiment une distinction ethno-culturelle spécifique et qui correspond bien, enfin c'est ce que j'ai essayé de montrer, qui correspond bien aux préjugés qui donnent naissance à cette catégorie. Cette catégorie a une permanence importante parce que cette distinction continue d'être opérée au recensement de 1962. Donc le recensement de 1962 a lieu en mars, je crois le 10 mars, bon, je ne suis plus tout à fait sûr du jour, mais en tout cas il a lieu avant les accords d'Évian, donc avant l'indépendance formelle de l'Algérie. Simplement le codage se fait après, il se fait en juillet, donc il se fait à un moment où normalement les Algériens qui sont présents en France métropolitaine, et ils sont assez nombreux, sont des Algériens, ce sont des nationaux algériens. Mais ils réutilisent cette catégorie, et en réalité ils recodent beaucoup de Français musulmans d'Algérie en 62. Et au recensement de 68, où normalement, là, pour le coup, plus aucun problème ne se pose, ils maintiennent cette distinction et donc ils réutilisent ces noms et prénoms pour coder différemment. Et donc, il y a des tableaux construits par l'INSEE où il y a cette catégorie de nationalité qui distingue notamment les Français musulmans nés en Algérie, donc qui devraient être Français comme tout le monde, des Français de naissance et des Algériens. C'est-à-dire qu'ils distinguent les rapatriés, donc les pieds noirs qui sont venus d'Algérie, des Français musulmans. Et cette distinction existe dans différentes administrations et se maintient assez longtemps. Par exemple, juste en 1974, le ministère des Armées envoie un décompte mensuel des effectifs à l'INSEE, donc les effectifs de l'armée, et on distingue dans ce tableau, il y a les Français de souche européenne et les Français de souche nord-africaine. Et donc toutes ces catégories font partie d'un emballage général de catégorisation, de classification distincte qui participe de l'identification et de la désignation de certains Français comme autres. Alors, juste simplement pour conclure en deux mots, l'objectif, c'est vraiment comprendre les processus de classification à l'œuvre, ce qui est pas forcément facile parce que ça relève... Donc, il y a ce qui est théorisé, et on le voit en théorie, tout va bien, il y a ce qui est mis en pratique, il y a ce qu'on peut lire dans les échanges, ce qu'on peut lire dans les archives qui restent sur la préparation du recensement, sur le fonctionnement... Et donc, à partir de ces processus de classification, c'est avoir une lecture critique de ces classifications et voir comment, finalement, ces groupes qui participent à la définition de la société française et qui persistent d'une certaine façon sont construits et fabriqués en fonction de contextes spécifiques et de situations particulières. Arrêtez là. Ok, merci. Merci beaucoup.
Merci pour ce passionnant travail de décodage des pratiques de l'administration face à la population. Voilà. Dans le travail d'historisation des populations étrangères assimilables ou non assimilables, je me suis demandé si vous utilisiez les écrits de Georges Moko, géographe, qui était expert sur toutes les questions d'immigration dans l'entre-deux-guerres, et suite à sa thèse sur les étrangers en France, de 1932. Et là, c'est déjà un corpus, ça constitue dans la généalogie, je pense, des représentations scientifiques que vous avez présentées en parlant des travaux de l'INED et de Sauvy. Quid de tout cet arrière-plan pseudo-scientifique qui a constitué la doxa pendant très longtemps, y compris dans l'administration, puisque les travaux de Moko étaient utilisés à l'époque déjà par les agents publics et politiques. Et avant Moko, André Perrault. Donc en fait, il y a toutes ces conceptions, toutes ces préoccupations natalistes, elles sont déjà là dans l'entre-deux-guerres, au moment où on fait venir des populations étrangères pour repeupler la France. Et déjà, donc, on classe, y compris, selon un gradient qu'on retrouve dans ce que vous indiquez là, avec des préférences pour les voisins de la France. Et plus on s'éloigne, plus on est inassimilable. Et puis par ailleurs, moi je me souviens que vous parlez des grandes enquêtes sur les Italiens, les Polonais, les Nord-Africains, mais en 1945, il y a aussi dans le cadre des travaux de l'INED, des enquêtes sur les Russes et les Arméniens, avec toujours cette question de savoir s'ils s'assimilent bien ou pas, alors, sachant qu'ils sont là depuis déjà 30 ans. Et donc on tire un peu les bilans aussi pour d'autres populations. Moins fraîchement présente. Voilà.
Je réponds tout
C'était pour lancer la question.
D'accord, okay, très bien. Sur Moko, oui, évidemment, c'est un personnage central dans l'entre-deux-guerres, et il joue aussi un rôle, il est aussi en contact avec l'INED et il cherche à influencer la situation de l'INED. Je pense que il est assez minoritaire dans les enquêtes, dans les enquêtes dont j'ai parlé. Il est plutôt mis en minorité et écarté, tout comme un certain nombre de personnages périphériques, Gessin et Louis Chevalier. Donc Louis Chevalier est un personnage important pour les enquêtes dont vous avez parlé de Russie-Arménie. Et en fait, au moment, entre 1944 et 1947, la personne qui vraiment s'occupe de ces questions est Chevalier, et qui est proche des thèses de Moko d'une idée un peu plus racialiste des populations. Et Chevalier, en quelque sorte, est écarté, et les personnes qui réalisent les enquêtes, donc c'est Alain Girard et Jean Stutzel, qui sont tous deux sociologues, et donc qui ont une vision, je dirais, plus culturaliste de l'intégration des populations. Et donc ce transfert, y compris à l'intérieur de l'INED, conduit à reformuler des problématiques. Donc des choses que Moko réformulait dans les années 30 sont formulées très différemment au début des années 50 dans les enquêtes de l'INED, même si on voit que les conclusions sont un peu les mêmes. Mais il y a en quelque sorte un glissement lent sur la pratique, la méthode, sur les mots employés, sur la façon de faire. Et Stutzel, qui est un personnage assez important, qui est un des fondateurs un des personnages clés de la sociologie française, a étudié aux États-Unis et donc réimporte à la fois des techniques de sondage, et donc il y a un rapport à l'enquête qui est très important et qui le différencie peut-être des travaux de Chevalier où il part d'observations qui sont d'ordre anthropologique et qui généralisent beaucoup. Donc il y a cette distinction. Ça répond.
C'était très, très intéressant, donc, cette construction de la catégorisation Et par rapport donc aux Français musulmans d'Algérie ou des Algériens, donc parallèlement, la citoyenneté française était accordée de, je dirais, à 100% pour les Caraïbes, hein, la Guadeloupe, la Martinique. Donc de ce point de vue-là, ils peuvent circuler et ils disparaissent quelque part des statistiques, eux. Concernant la pérennité de ce fichier, il me semblait que le fichier juif du recensement à l'époque de Vichy a perduré jusqu'aux années 90, il me semble. Et il n'a été détruit que assez tard. Donc, alors, je dis ça parce que tout simplement, est-ce que ce service public, cet établissement public de recensement comme l'INED, qui semblerait avoir quand même une certaine latitude en termes de choix de critères ou autres, est-ce que malgré tout, cet aspect de traçabilité, je dirais, de ces citoyens français avec une différenciation ethno-culturelle et sous-jacente, il y a la différence religieuse, qui est apparemment très forte comme marqueur, est-ce qu'il n'y a pas quand même, de manière informelle ou autre, un avis quelque part du ministère de l'Intérieur en termes de l'aspect sécurité, voilà, il faut quand même qu'on sache... Est-ce qu'il y a quelque part des traces de... bon, même si après 54, en tout cas après les événements, les événements d'Algérie, début de la guerre d'indépendance, c'était clair que là, il fallait surveiller et contrôler, hein, par rapport au FLN sur le territoire français, etc. Merci.
Merci pour votre question. Donc ça c'est le tableau que j'ai montré tout à l'heure avant 1939, et donc comme vous le voyez, enfin j'espère que vous le voyez, tout en haut vous avez citoyens français de droit, donc les gens qui ont la nationalité et la citoyenneté, et donc il y a les habitants des vieilles colonies, ceux que vous mentionnez, donc le Guadeloupe, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a les Sénégalais des communes de plein exercice, donc c'est les quatre communes du Sénégal qui sont comme la France, les habitants de Tahiti et les Israélites algériens qui ont reçu la citoyenneté par le décret Trémieux. Et donc, eux, vous voyez, sont classés, donc le classement au recensement, c'est français de naissance. Donc, eux, effectivement, sont indiscernables et disparaissent dans les tableaux du recensement. Pour être plus précis, après, il y a des tableaux qui sont faits par département. Donc, on ne va pas avoir, par exemple, les migrants de La Réunion qui résident à Paris, tout comme on a les migrants de Bretagne qui résident à Paris. Ce qui diffère par rapport à la situation algérienne, c'est qu'ici, on ne distingue pas les migrants de La Réunion selon qu'ils sont descendants de colons ou descendants de colons. J'essaie d'employer les termes le plus neutre possible, mais ce n'est pas facile, ou qui sont colons ou descendants d'esclaves ou d'indigènes. Quoi. Ce qui est ce qu'on fait en Algérie. Quoi. C'est ça la vraie distinction, en fait. Et alors, sur votre seconde question, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait bien compris quelle était la question. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on pratique des distinctions par...
C'était juste la question par rapport à ce suivi en quelque sorte longitudinal, est-ce qu'il y a cet aspect d'assimilation, etc., est-ce qu'il ne se doublait pas d'une question sécuritaire déjà à l'époque, de dire bon voilà, ce qu'on dit, ils disparaissent de la circulation, c'est des populations mouvantes, etc., et donc essayer de voilà cet accent mis sur de coder par rapport à l'origine, etc. Donc, est-ce que ça... Il y a l'aspect contrôle, je veux dire. Voilà, cet aspect contrôle. Et donc, contrôle, après, c'est sécuritaire, quelque part. Et pour donc évaluer, quelque part, la proportion hein, dans la population française, donc, de cette population-là. Culturellement
ou disons, l'aspect sécuritaire sert en partie de prétexte à la façon dont c'est fait, et le sert d'autant plus après le déclenchement de la dernière indépendance d'Algérie, où il y a vraiment une reprise en main. Avant le début de la guerre, il y a un aspect, justification par la criminalité ordinaire, par l'idée qu'ils sont tous criminels. Mais en même temps, cet aspect sécuritaire, et je crois que c'est assez important, pour les statisticiens de l'INSEE, normalement, ça doit être un recensement. Donc ça doit être clairement distingué, parce que si on veut que les gens acceptent d'être recensés, et on recense quand même pour des buts, donc c'est pour le but de recensement, c'est pour la gestion de l'État, pour connaître la population des communes, pour toutes sortes de choses. Donc il faut que le recensement apparaisse neutre. Et c'est intéressant parce que dans les documents d'archives, on voit qu'il y a une différenciation évidemment des pratiques selon les directions régionales. Et il y a des endroits où c'est plus proche d'une opération de police, d'une opération de recensement. Et donc on voit souligné en marge par le directeur de l'INSEE, c'est pas normal, ils ont arrêté des gens, c'est comme une rafle. Et donc il commente pour lui, ça ne doit pas être une opération de contrôle, justement. Mais en même temps, ils sont victimes en quelque sorte de à la fois du climat et du fait que eux-mêmes mettent en place des mesures d'exception. Ils font appel à des anciens militaires pour être agents recenseurs. Il se produit ce qui doit se produire, quoi. D'une certaine façon, l'INSEE, il y a toujours cette tension de ce système à double vitesse. Et donc, évidemment, l'INSEE ne peut pas éviter ces sortes de dérapages. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Merci pour votre présentation. J'aurais une petite question. À titre de comparaison, vous avez bien expliqué la politique de classification française. Est-ce qu'on retrouve des pratiques similaires, légèrement variables, dans les autres empires européens, portugais, belges ou britanniques ?
C'est une très bonne question. Je ne crois pas que j'ai de réponse comme ça assez claire. Les mécanismes de pour donner la citoyenneté ont été assez différents, notamment dans l'Empire britannique, où il y a eu un Commonwealth, donc où les gens ont gardé leur citoyenneté. Mais j'avoue que j'ai pas d'idée de ce qui a été fait là comme ça immédiatement. Mais bon, ça a été aussi des enjeux importants. Alors dans l'Empire belge, j'avoue que je n'en sais rien du tout. Mais dans l'Empire britannique, ça a été évidemment un enjeu important. Et les Britanniques ont gardé très longtemps la libre circulation. Donc de tous les pays membres du Commonwealth, tous résidents des pays membres du Commonwealth avaient la libre circulation vers la métropole anglaise, juste dans les années 70. Et une fois en Angleterre, ils pouvaient demander la nationalité britannique, et il l'avait très très vite. Donc, c'était assez rapide. Et comme en France, au moment où ça s'est accéléré brutalement et qu'il y a eu de nombreuses arrivées, ils ont mis fin à ces deux systèmes. Mais il y a eu toutes sortes d'arrangements et je pense que c'est des gestions un peu au cas par cas, parce que les colonies britanniques étaient aussi sur différents pieds d'égalité. Un cas comparable, par exemple, ça pourrait être Hong Kong, où il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui ont des passeports britanniques à Hong Kong, parce qu'ils ont eu la nationalité directement. Voilà, sur les classifications dans les recensements anglais, je ne sais pas du tout, je suis désolé.
Il y a une question.
Juste rapidement pour répondre partiellement à cette question, dans les colonies britanniques, et là je vais prendre quelques exemples précis sur la Caraïbe en particulier, en Jamaïque, à Trinidad et dans différentes autres colonies britanniques de l'époque, la classification se fait sur des bases raciales entre guillemets, c'est-à-dire que, enfin raciales ou plutôt en termes d'origine géographique, mais qui, dans leur esprit, dans l'esprit de l'administrateur, correspond à la même chose. En Jamaïque, par exemple, on distingue les Européens des Africains. On distingue... Alors, il faut comprendre, quand on dit Européen, il faut comprendre que c'est, en réalité, Jamaïcain d'origine européenne, Jamaïcain d'origine africaine. Dans les colonies où nous avons beaucoup d'Indiens, de personnes originaires d'Inde sur plusieurs générations, les descendants des travailleurs sous contrat indiens, on a ces distinctions entre, par exemple, à Trinidad ou au Guyana, on a ces distinctions entre Africains, Indiens et Européens, par exemple. Voilà. Donc il y a cette distinction qui se fait. Alors c'est sur d'autres bases, évidemment, que celles qui ont été présentées ici, mais on est dans des logiques qui renvoient à des choses similaires à ce qui a été décrit ici, quoi. Même si les catégories se font sur des bases différentes.
Mais en fait, là, juste un ajout, là, ce dont vous parlez, c'est dans la colonie. Et ça, c'est la même chose pour les colonies françaises en Guadeloupe et tout ça. Dans la colonie, il y a une distinction sur une base raciale. Ça, c'est vrai. Ce dont j'ai pressé... Bah ça l'a été assez longtemps. Oui.
Ah non, pas sur ces bases-là. C'est-à-dire que en Martinique, en Guadeloupe, alors jusqu'aux années, en tout cas au 19e siècle, hein, là on parle pas du 20e siècle, mais plus du 19e siècle, il y avait les recensements étaient sur une base phénotypique et pas sur l'origine. C'est-à-dire que vous aviez effectivement la catégorie donc blanc-noir, et puis vous aviez toute une gradation en fait qui n'existait pas. Enfin, qui existait, mais qui en tout cas n'était pas libellé tel quel dans les recensements. Vous aviez par exemple mulâtre, vous aviez carteron, octeron, etc. Oui. Mais ça, c'était au XXe siècle, c'était terminé.
Oui.
Alors qu'en Jamaïque, dans les années 40, ça continuait. Quoi.
Je ne sais pas comment ça se passe en métropole, c'est-à-dire la situation des Jamaïcains qui vivent à Londres. Est-ce qu'ils sont classés Jamaïcains ou est-ce qu'ils sont classés selon ces catégories-là? C'est ça que je veux dire. Et c'était la question, enfin, qui ferait le pendant de ce que j'ai présenté sur la France, quoi. Qui est la classification de l'importation en métropole des classifications que vous venez de décrire.
Moi j'étais très, très vivement intéressé par votre propos et je vous en remercie. Mais j'ai aussi été intrigué à un moment donné parce que vous avez utilisé une fois ou l'autre le mot discrimination, mais vous avez utilisé beaucoup plus souvent le mot distinction, quoi, ou différenciation, etc., quoi. Alors, comme je suis sociologue, le mot distinction pour moi est connoté d'une manière très particulière, quoi. Et du coup, je me suis demandé, mais pourquoi hésite-t-il ou pourquoi ne veut-il pas employer le mot discrimination? Est-ce que c'est par souci de ne pas rentrer dans des dimensions plus idéologiques des choses, ou est-ce que c'est par rigueur scientifique? Enfin, je ne sais pas. Voilà. Alors donc, la question c'est celle-là. Pourquoi cette hésitation face au mot discrimination? Et j'en avais une deuxième qui renvoie un peu des choses qui ont déjà été dites tout à l'heure, quoi. J'ai travaillé dans un établissement public qui fait de la statistique également, qui n'est ni l'INED ni l'INSEE, mais qui est le CEREC qui est à Marseille. Et dans les études donc, sur l'insertion des jeunes, il y a souvent eu des débats autour de cette nécessité ou non de distinguer précisément, là, de séparer les jeunes d'immigration des autres, avec plein de bonnes raisons, quoi, en s'appuyant de la même manière sur le lieu de naissance. Voilà, si le père et la mère sont nés en Turquie ou en Algérie ou au Mali, c'est que ce sont des enfants d'immigrés, quoi, voilà. Et ça se faisait avec plein de bonnes raisons, quoi. Même s'il pouvait y avoir peut-être pas que des bonnes raisons derrière tout ça, quoi, je veux dire. Peut-être pas chez les collègues du CEREC, mais chez ceux qui nous commandent les enquêtes, quoi. Et je voulais ça, et du coup je me suis dit, mais parce que là vous avez évoqué, vous laissez entendre qu'il y avait surtout de mauvaises raisons, quoi, à vouloir. Est-ce que peut-être il y avait, enfin bon, est-ce que les choses étaient aussi claires, aussi tranchées que ça, quoi, voilà.
Oui, alors c'est une question importante, je vais essayer d'y répondre. Simplement, sur discrimination, j'ai parlé, c'est-à-dire quand j'ai présenté les travaux des autres personnes sur l'accès au logement, il y a des travaux par exemple sur l'accès au travail, qui normalement l'accès à la fonction publique doit être le même, enfin tous les citoyens français peuvent passer les concours publics, et évidemment ce n'était pas tout à fait pareil pour les Français musulmans d'Algérie. Et donc là, j'ai parlé de discrimination, parce que c'est vraiment ça. Quand ensuite je suis rentré dans les choses sur la classification, là, il me semblait que ça relevait de méthodes de distinction, ou en tout cas, j'ai pas voulu me prononcer. Donc on marque comme différents des gens qui ne devraient pas l'être, au regard de la loi et au regard des procédures administratives. Est-ce que c'est une discrimination ou non? Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire dans le cas du non-accès à l'emploi public ou dans le cas du fait que leurs allocations familiales soient trois fois inférieures, ça me semble être au-delà du débat que c'est une discrimination. dans le cas du fait qu'ils soient dans les catégories à part, bon, ça peut se discuter. Et du coup, vous soulevez de la question des bonnes ou mauvaises raisons. Bon, je ne me suis pas prononcé en termes de bon ou mauvais, quoi. C'est simplement que y a une loi et ils ne la respectent pas, et que le fait qu'ils ne la respectent pas, ça dit toutes sortes de choses sur les. Enfin, il y a des impensés dans cette façon de procéder. Et c'est ces impensés que j'essaye de mettre en évidence et de signaler. Sans dire s'ils sont bons ou mauvais. En tout cas, je ne prononce pas sur ça. Et si, alors sur la question de est-ce qu'aujourd'hui il faudrait des statistiques spécifiques pour voir les discriminations, par exemple, ou alors est-ce qu'il n'en faut pas parce que ça va les distinguer comme ça. Bon, ça c'est un débat, j'ai pas le temps d'y entrer. Moi, personnellement, je pense qu'il en faudrait pour voir les discriminations, mais qu'il en faudrait d'une façon qui soit qui limite les mauvais usages qui pourraient en être faits, pour le dire facilement. Mais bon, c'est difficile d'entrer dans ces débats, et en même temps, ils sont forcément une conséquence de ce que je présente là. C'est-à-dire, quand on vous dit non, dans la République française, on ne distingue pas les gens selon leur origine, tout ce que vous voulez, ben là, ça a été fait, et ça a été fait pendant une certaine période, et l'administration française elle-même l'a mis en œuvre. Donc ça, c'est une réponse à ça. Après, quand vous dites on distingue les gens selon le lieu de naissance des parents, encore une fois, c'est des choses différentes. Ce n'est pas la même chose d'utiliser le lieu de naissance qui figure toujours dans le recensement. Il y a des tableaux selon le lieu de naissance, etc. Là, on distingue parmi les gens qui sont nés en Algérie, on distingue ceux qui sont indigènes de ceux qui sont colons, pour le dire vite. Et donc c'est ça qui est vraiment spécifique. Et donc ça pose d'une certaine façon d'autres questions, quoi. Qui sont un peu au-delà du pays de naissance, pour le dire facilement.
Bon, je pense que la conférence est terminée. Merci beaucoup. On a une conférence sur un sujet encore dans le même ordre, le 5 février. Donc je vous invite à venir. Merci à nos auditeurs et merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir.